L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, un débat au Canada sur l'aide médicale à mourir. Au Gabon, une tentative de putsch qui n'aura duré que quelques heures. En Zambie, on vous dira pourquoi la visite du ministre suisse des Affaires étrangères a provoqué une belle polémique. Au programme également, en France, un projet de mosquée ouverte aux femmes avec une imam femme. Et puis en Belgique, l'ouverture très attendue du procès de l'attentat du musée juif de Bruxelles il y a 4 ans et demi. Voilà pour les titres de cette actualité francophone. Bienvenue à tous. À Paris, l'ancien champion de France de boxe Christophe Détinger a été écroué, placé en détention provisoire dans l'attente de son procès mi-février. Le week-end dernier, l'athlète qui mesure plus d'1m90 avait violemment tabassé des gendarmes, dont l'un à terre, lors de la manifestation à Paris des Gilets jaunes. Il est poursuivi pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Aujourd'hui, il admet avoir mal réagi. Il risque 4 ans de prison et 60 000 euros d'amende. Ses soutiens ont ouvert une cagnotte pour ses frais de justice, une cagnotte qui fait polémique d'ailleurs. Elle est dénoncée comme une provocation ou une caution pour aller, je cite, aller casser du flic. En République démocratique du Congo, le nouveau président élu s'appelle Félix Tshisekedi, selon les résultats provisoires de la présidentielle. Même si son élection a été immédiatement contestée, Félix Tshisekedi symbolise pour beaucoup l'alternance qu'ils appelaient de leurs vœux à la tête de l'État congolais, Clémentine Pavlotsky.
C'est effectivement la consécration pour Félix Tshisekedi qui a longtemps vécu dans l'ombre de son père Étienne Tshisekedi, principale figure de l'opposition pendant près de 40 ans, opposant au régime Mobutu puis au clan Kabila. Félix, que l'on surnomme Fatshi, vit depuis plus de 30 ans en Belgique. À la mort de son père il y a 2 ans, il devient président de l'UDPS. Il incarne une nouvelle ligne plus conciliante, moins radicale, mais ses détracteurs lui reprochent aujourd'hui de s'être compromis avec le régime Kabila et d'avoir conclu un arrangement avec la majorité présidentielle sortante pour parvenir à cette victoire.
Benoît Audet, au Canada, votre personnalité de la semaine est l'ancienne ministre québécoise de l'Environnement.
Oui, Marie-Chantal Chassé, elle est redevenue simple députée après avoir annoncé sa démission cette semaine. Le premier ministre François Legault a décidé de la remplacer pour la simple et bonne raison qu'elle n'arrivait pas à bien se défendre devant les médias. Elle a été remplacée par Benoît Charette, un député qui est en place depuis plus longtemps à l'Assemblée nationale.
Le photographe suisse Jean Revillard est mort. Son appareil à la main, le Pierre Enchauffard.
Oui, il n'avait que 51 ans. Il a succombé à une crise cardiaque alors qu'il travaillait à un projet personnel dans une forêt en Bretagne. Son regard décalé sur l'actualité lui a valu plusieurs World Press photos, notamment pour son photoreportage dans la jungle de Calais en 2008. Avec son flash, Jean Revillard éclairait les abris de fortune de ces migrants cherchant par tous les moyens à rejoindre la Grande-Bretagne. Des images très travaillées, trop pour certains qui lui ont reproché d'avoir esthétisé la misère.
Et toujours à propos de journalisme, la Belgique fête l'anniversaire du plus célèbre de ses reporters, Nathalie Devic.
Eh oui, 90 ans et un éternel visage d'adolescent, Tintin n'a pas pris une ride depuis l'apparition de sa première aventure au pays des Soviets. C'était précisément le 10 janvier 1929. Il a tellement voyagé depuis que son succès est devenu planétaire. 250 millions d'albums vendus, des histoires traduites dans plus de 120 langues. Héros à la houppette indémodable, Tintin reste une valeur sûre, pas seulement de la BD, mais aussi de l'art moderne. Les planches d'Hergé s'arrachent toujours à prix d'or lors des ventes aux enchères.
Au Québec, la question de l'aide médicale à mourir est donc revenue au devant de l'actualité cette semaine. Deux Québécois ont témoigné devant les tribunaux pour contester les lois qui encadrent cette aide médicale à mourir. Benoît Aidé, explique-nous d'abord pourquoi ces deux personnes sont obligées de porter leur cause devant les tribunaux.
C'est que la loi fédérale dit que seuls les demandeurs dont la mort est raisonnablement prévisible peuvent obtenir l'aide d'un médecin pour mettre fin à leur jour. Les deux plaignants n'ont pas eu accès à l'aide médicale à mourir en 2016 parce qu'on jugeait que leur mort n'était pas imminente. Voici une des plaignantes, Nicole Gladu, qui est atteinte d'un syndrome post-poliomyélite.
Si on me refuse ce droit-là, ben ça va me pousser bien plus vers le suicide. Moi, j'ai 73 ans, mais autant M. Touchon que 45 ans, je pense. On est capable de décider par nous-mêmes et d'après des critères plus objectifs.
L'avocat des deux plaignants fait valoir que c'est la souffrance et non la mort imminente qui devrait être prise en compte.
Et quelle est la défense du gouvernement et de ses avocats?
Ils vont plaider que la loi actuelle représente le meilleur équilibre possible. Ils estiment qu'offrir l'aide médicale à mourir à tous pourrait représenter des risques pour la protection des personnes vulnérables. Quoi qu'il en soit, une trentaine de jours d'audience sont prévus et cette cause illustre bien toute la difficulté d'encadrer une pratique comme l'aide médicale à mourir.
Les Gabonais se sont réveillés lundi matin sans plus savoir qui les dirigeait. À l'aube, des mutins ont lu un message à la radio appelant à la mise en place d'une autorité transitoire en l'absence d'Ali Bongo, le président est en convalescence au Maroc. Cela dit, cette tentative de coup de force a très vite échoué, Clémentine Pavlotsky.
Oui, la confusion et l'incertitude n'auront finalement duré que quelques heures. Les mutins ont investi les locaux de la radio-télévision nationale vers 4h du matin. Coiffé d'un béret vert, le lieutenant Kelly Ondo-Obiang a pris la parole pour dire son inquiétude suite au discours du nouvel an du chef de l'État. Un discours qui montre, selon les mutins, qu'Ali Bongo n'est plus capable de gouverner. Les putschistes ont donc appelé les Gabonais à les soutenir, à investir les édifices publics et les aéroports. Un soutien qui ne viendra pas ou qui n'aura du moins pas le temps de se manifester. Seules quelques dizaines de manifestants donnent de la voix. Très vite, des hélicoptères de l'armée loyaliste survolent le ciel de Libreville. Des blindés sont déployés autour et dans la cour de la maison de la radio. Internet et les réseaux sociaux sont coupé par les autorités.
Et finalement, en milieu de matinée, l'assaut a été donné par les forces de l'ordre sur le siège de la radio.
La radio emporte encore les stigmates. Le porte-parole du coup d'État tente de fuir après avoir enfilé les vêtements d'un journaliste. Il est finalement arrêté avec plusieurs complices. Deux de ces hommes sont tués lors de l'intervention. Les autres sont aujourd'hui détenus par la police militaire. Ils encourent la perpétuité. Leur procès permettra peut-être de mieux comprendre ce qui s'est passé lundi, car cette tentative de coup de force éclair et mal préparée en apparence suscite encore des interrogations, tant les zones d'ombre sont nombreuses.
Le voyage en Afrique cette semaine du ministre suisse des Affaires étrangères a déclenché une belle polémique. En cause, Pierre-Henri Chauffat, sa visite dans une mine du groupe Glencore en Zambie.
Géant du négoce et de l'extraction de matières premières, Glencore est basée en Suisse. Cette multinationale est dans le collimateur de plusieurs organisations non gouvernementales. Elle lui reproche de nuire gravement à l'environnement dans les pays du Sud et de ne pas respecter les normes de protection de la santé, ni pour les travailleurs, ni pour les riverains de ces sites d'extraction.
Cela dit, Pierre-Henri, qu'un ministre suisse rende visite à une filiale d'une entreprise helvétique à l'étranger, a priori, ça n'a rien de choquant.
C'est vrai, sauf qu'Ignacio Cassis n'est pas en charge de l'économie. Et puis surtout, il a fait part de son enthousiasme sur Twitter. Il s'est dit impressionné par les efforts de Glencore pour moderniser cette mine en Zambie. Une louange que l'entreprise s'est bien sûr empressée de diffuser largement pour lisser son image. Chantal Payer de l'organisation Pain pour le Prochain regrette que notre ministre se soit ainsi fait instrumentaliser.
Il y a beaucoup de naïveté. C'est pas parce que vous voyez une usine moderne qu'il n'y a plus de problèmes de droits humains et qu'il n'y en aura plus à l'avenir. Et c'est là qu'on aurait attendu beaucoup plus de discernement de la part d'un conseiller fédéral qui s'est fait instrumentaliser. Un certain nombre de membres du conseil fédéral pensent qu'il suffit de dialoguer avec ces firmes pour changer la situation. Or non, il faut un cadre politique clair et c'est là qu'on attend une attitude beaucoup plus claire du ministre chargé de la promotion de la paix.
Autrement dit, un cadre légal qui responsabiliserait ces multinationales, y compris pour leurs filiales dans les pays du Sud. Une polémique qui tombe donc plutôt bien pour les partisans de l'initiative populaire pour des entreprises responsables, dont c'est précisément le but.
Et pourquoi pas une femme imam en France? Ce serait d'ailleurs une première. L'idée fait son chemin. C'est le projet de deux musulmans français, une doctorante en islamologie et un professeur de philosophie, qui disent ne plus se retrouver dans la manière dont est pratiqué le culte musulman aujourd'hui en France. Alors ils veulent donc lancer une mosquée libérale à Paris, la mosquée Fatima, avec une lecture plus moderne des textes. Une mosquée donc dans laquelle les femmes y auront toute leur place, car des femmes imams, ça existe certes au Danemark, en Allemagne ou aux États-Unis, mais pas en France, qui est pourtant la première communauté musulmane d'Europe. Alors dans cette mosquée Fatima, une femme prêcherait un vendredi sur deux. C'est une question de justice, estime le professeur de philosophie Fakir Korshan.
Il n'y a absolument rien qui l'interdit. Les femmes ont joué un rôle très important dans l'islam dès les premiers temps. Donc pour moi, en fait, en réalité, ça devrait être une banalité. Je me rends compte que ce n'est pas une banalité du tout. Voir une femme qui va aller en chair et puis prononcer le discours qui la met dans une position un peu d'autorité, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas prêts à l'admettre. La réaction, elle ne relève pas du tout d'un argument théologique ou rationnel. C'est les tripes.
Et derrière ce projet de mosquée alternative, il y a aussi une femme islamologue. Elle s'appelle Kaina Baloul. D'ailleurs, elle se verrait bien devenir imam avec des prêches en français devant un parterre mixte, hommes et femmes priant dans la même salle.
Dès qu'il s'agit de religion, on est complètement séparés. Et souvent, c'est une lecture très masculine, du coup, qui prend le dessus. Souvent, les femmes n'ont pas accès aux salles de prière principales dans les mosquées. Soit elles sont reléguées dans un petit coin ou une salle à côté. Parfois, on loue des garages ou des appartements à côté de la mosquée. Donc, pour moi, en tant que femme, je me sens exclue des lieux de culte, des mosquées musulmanes aujourd'hui.
Le concept de cette mosquée moderne en France est donc prêt. Les statuts de l'association aussi. Il ne manque plus aujourd'hui que le local activement recherché. En Belgique, Nathalie De Vic, c'est un procès très attendu et très médiatique qui s'est ouvert cette semaine.
Le procès de l'attentat au musée juif de Bruxelles en mai 2014, considéré comme le premier attentat imputé au groupe terroriste État islamique sur le sol européen. Une fusillade au cours de laquelle 4 personnes ont perdu la vie. Sur le banc des accusés, 2 Français d'une trentaine d'années, Medine Mouche, également accusé par des otages rescapés des prisons syriennes d'avoir été un des geôliers de l'État islamique, et Nasser Bendrer, son complice présumé. Procès aux assises, c'est donc un jury populaire qui devra trancher. Une association française des victimes du terrorisme s'est notamment constituée partie civile. Écoutez son président Guillaume Denoy de Saint-Marc.
Nous ne sommes pas là dans un esprit ni de vengeance ni de revanche. On essaye de comprendre ce qui s'est passé et comprendre à quel point ce dossier-là est lié aux autres, puisque nous sommes partie civile dans de très nombreux dossiers, notamment en France et en Belgique d'ailleurs. Et le but, c'est de comprendre ce morceau du puzzle plus général des djihadistes français et belges.
Un puzzle aux pièces multiples qui sera long à reconstituer vu ses ramifications nombreuses et nébuleuses. 200 pages d'actes d'accusation, une centaine de témoins. Les attentes sont nombreuses, les questions tout autant dans ce procès sous très haute surveillance policière. Alors que le principal suspect nie toujours les faits, pas sûr même qu'il se décide à parler lors de son interrogatoire mardi prochain. Un procès qui devrait durer 2 mois. Les 2 hommes encourent la réclusion à perpétuité.
Voilà donc pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.